Et bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Nowtech. Aujourd'hui, on va parler de l'Apple Car. Oui, on l'avait presque oublié. Elle ne sortirait pas avant 2028, si elle sort. On parlera bien sûr de plein d'autres news tech. Il y en a aujourd'hui. Nous sommes d'ailleurs aujourd'hui le 25 janvier 2024 et on démarre tout de suite. Et bonjour à tous, comment vous allez bien ce matin? Attendez, je suis un petit peu haut sur mon siège, voilà qui est rectifié. Est-ce que vous allez bien ce matin? Un grand merci, Polaire75, 46e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est du zbeul. Merci Ben the Caméléon également pour ton 6e mois d'abonnement. VLight06 pour ton 27e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Gigi8100 pour ton 4e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Les contributeurs vont-ils faire démarrer le train de la hype?
On va le savoir.
Et j'ai retrouvé certains boutons. Comment vous allez bien? Grand ciel bleu. Ah ouais, le redoux là. Regardez, j'ai sorti la petite chemise et tout, petit t-shirt. C'est limite encore, mais on a envie. On a envie d'enlever les gros pulls. Je sais pas si c'est le cas pour toute la France, mais en tout cas, nous, on a un vrai redoux, là. Je sais pas si c'est pas un peu trop tôt, d'ailleurs, dans la saison, là, le redoux. Il n'y a plus de saison. Il n'y a plus de saison. Ils ont tout déréglé, là, avec leur satellite, madame. Ouais, je fais bien le pilier de bar, ouais. Je sais comment je me reconvertirai. Ciel bleu dans le nord. Ouais, là, c'est exceptionnel. Comment vous allez bien? Est-ce que vous avez la forme? Bientôt la fin de la semaine, nous sommes jeudi. J'avais l'impression d'être vendredi aujourd'hui. Ça veut dire que mes semaines sont bien chargées. Même depuis mardi, j'ai l'impression que c'est vendredi. T'as pas fui en Bretagne avec l'arrivée des agriculteurs pour le siège de Paris? J'ai pas encore le tas de fumier. Ah tiens d'ailleurs. Petit conseil de visionnage, mais bon, il faut avoir Canal+, ou d'autres moyens que je ne citerai pas ici. Je vous conseille le film Les Algues Vertes. Alors, c'est un film très à gauche, mais néanmoins très intéressant, que je trouve vachement intéressant. Ça se passe en Bretagne. C'est sur le problème des algues vertes liées à l'agriculture. Enfin, voilà, on voit un petit peu le système agricole aussi et les problématiques qu'il peut y avoir dans le système agricole. Donc, si vous voulez vous regarder un film, c'est tiré d'une histoire vraie, hein, ouais, quand même. Bon, alors, c'est pas un film, on va dire, divertissant, facile, gardien de la galaxie, piou-piou, pas du tout. Il faut, à mon avis, quand même le regarder avec juste la conscience que c'est un film très à gauche, un tout petit peu manichéen, je trouve, par certains aspects, mais que j'ai trouvé hyper intéressant. Ah mince, très à gauche, ça veut dire que les algues vertes sont extrême droite. Ne rentrons pas dans ce débat. Ne rentrons pas dans ce débat. Mais clairement, enfin là, je veux absolument pas rentrer dans les histoires politiques, mais on a clairement un problème avec l'agriculture. Je m'exprimerai pas plus sur le sujet. Pourquoi très à gauche? C'est surtout, il y a une partie du film où elle dialogue avec, disons que ça présente la Fédération des agriculteurs, ça dépeint le problème de l'agriculture que d'un côté. Mais je le dis pas forcément comme une critique, hein, que c'est un film très à gauche. C'est juste une expression d'une partie du problème, je pense. « Mais comment on peut politiser des algues? Bah, regarde le film. Regarde le film. L'agriculture en France a deux visages. La France, terre de contraste. La France, entre modernité et tradition. Et n'empêche, j'ai lu un truc ce matin, parce que c'est quand même les agriculteurs allemands qui ont commencé. Et il y avait un message où les agriculteurs allemands disaient « Waouh, les Français, bon level là, vous nous avez un peu dépassés. » Oui, alors Gigi, débat très intéressant. Je le laisse à un Jean Massier ou à... Moi, j'avoue que je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants. J'aurais juste tendance à dire que l'agriculture est peut-être pas une industrie comme les autres. Et qui, d'ailleurs, n'a pas exactement les règles de n'importe quel commerce. Et que c'est absolument pas normal, effectivement, qu'on ait autant d'agriculteurs qui vivent sous le seuil de la pauvreté. C'est quand même des gens qui fabriquent ce qu'on mange. Donc il y a vraiment un problème, quoi. Bref, vous voulez me faire rentrer dans le débat politique, je vous résiste. Vade rétro politicas. La vraie journaliste a diffusé ses différents reportages. D'accord. Oui, oui, non, c'est vraiment basé sur une histoire vraie. Et en dehors de ça, c'est un très bon film. Je trouve que c'est un très bon film sur un sujet pas forcément facile, quoi. Allez, je vous vois, hein. Je vous vois, hein, essayer de nous mener dans ce débat. Nous n'irons pas dans ce débat. On va regarder de quoi on va parler, surtout que j'ai plein d'articles ce matin. C'est un peu le problème de faire moins de mugs, c'est que j'ai beaucoup d'articles quand j'en fais un maintenant, mais c'est bien. On va essayer de traiter toutes ces infos. On va parler de Midjourney AI, l'utilisation d'œuvres de 16 000 artistes sans consentement devant la justice, un article de Presse Citron. On parlera ensuite de la plus grande fuite de données de l'histoire dans un article de CorySlate.fr. Effectivement, une énorme fuite de data. Êtes-vous concerné? Oui. On parlera de Netflix. On parlera de Netflix dans un article de Clubic.com. Les résultats de Netflix portés par le durcissement autour du partage de comptes et par GTA. On avait tous plus ou moins pronostiqué que Netflix allait s'effondrer avec ses décisions d'augmenter ses prix, d'enlever le partage de comptes, etc. Bah, c'est tout le contraire. Netflix se porte très très bien. Et on analysera justement un petit peu ça. On parlera effectivement, comme je l'avais annoncé en titre, de l'Apple Car, et pas l'Apple Care. L'Apple Car, repoussé en 2028 avec un niveau d'autonomie plus faible. J'ai même envie de dire, sans spoiler l'article de ZDNet, c'est à se demander si Apple va aller jusqu'au bout. On verra. On verra, on verra. On parlera du sideloading. J'irai vite sur cet article parce qu'on en a déjà parlé, mais dans un article de Presse Citron Net, il récap un petit peu que le sideloading qui va arriver sur iPhone risque d'être décevant. Il y a deux hypothèses de comment Apple va se soumettre aux lois européennes en ouvrant la partie sideloading. C'est peut-être pas le sideloading que vous attendiez. Utilisateur Android qui aimait la liberté qu'apporte Android, spoiler, restez sur Android. On parlera des scalpers. Qu'est-ce que c'est que les scalpers? C'est des gens qui achètent en masse des produits d'exception pour les revendre plus cher sur eBay ou d'autres sites. Eh bien, ils ont réussi à déjouer les précommandes du Vision Pro. Et on peut se dire que c'était pas facile parce que vous savez que les précommandes du Vision Pro, il fallait faire un scan de visage et tout ça. On verra comment ils sont arrivés. Et a priori, ils ont acheté pas mal de Vision Pro. Et il y a beaucoup de Vision Pro revendus très cher maintenant sur eBay. Un article de Mac Forever. Et nous terminerons par un article un petit peu débat, mais très intéressant, un article de ZDNet. L'IA ne remplacera pas encore votre emploi car elle est trop chère. Effectivement, économiquement, on pouvait trembler pour nos différents emplois avec l'arrivée extrêmement rapide de l'IA. On verra alors. On parlera de cette étude parce que il y a des choses que je comprends, il y a des choses que je comprends pas dans l'étude qu'ils ont faite. Mais c'est intéressant aussi de voir les choses sous cet angle. Voilà en tout cas pour les news du jour. J'espère qu'elles vous vont. J'en ai pas d'autres. Et on démarre tout de suite effectivement en parlant de Midjourney. Midjourney un petit peu dans la sauce. Midjourney une intelligence artificielle générative d'images très connue. Et qui continue, comme toutes les IA de génération d'images, à soulever des questions éthiques et juridiques importantes, en particulier sur le droit d'auteur. On a en effet appris que les œuvres de plus de 16 000 artistes auraient été utilisées sans leur consentement pour entraîner le logiciel d'intelligence artificielle. Juste pour expliquer très rapidement, je ne sais pas si vous connaissez, je vais vous montrer l'artiste Jeff Koons, qui est connu pour ses chiens ballons, notamment. Quand on demande à Midjourney de nous faire des chiens ballons dans le style de Jeff Koons, c'est plutôt réussi, même si ça se discute, mais je pense pas qu'on pourrait confondre ce qu'il a fait avec une œuvre de Jeff Koons. Mais le style est définitivement là. Voilà le type de problème qu'il peut y avoir. Une intelligence artificielle générative d'images va être entraînée sur des bases de données d'images existantes et donc sur des styles d'artistes. Hein. Vous compreniez le fond du problème. Ça serait donc plus de 16 000 artistes qui auraient... c'est pas 16 000 artistes qui portent plainte, mais il y a une class action en Californie avec énormément d'artistes qui la rejoignent, estimant effectivement que Midjourney, mais il n'y a pas que Midjourney, hein, il y a dedans d'autres logiciels, d'autres IA génératives d'images qui sont concernés par cette class action, notamment Stability AI, Runaway AI et DeviantArt. Pour ceux qui connaissent. Toute la question est de savoir si les productions artistiques d'une IA entraînée à partir d'œuvres d'artistes en libre accès sur Internet, oui ou non, de nature différente. Or, il n'existe pour l'heure, dans le droit américain, ainsi que celui dans d'autres pays, rien dans le droit américain, ainsi que dans les autres pays, qui ne protège réellement les artistes contre l'utilisation de leur œuvre dans le cadre de l'entraînement d'intelligence artificielle ou la reproduction d'œuvres en utilisant leur style ou en combinant d'autres. Une enquête menée par le Design Artist Copyright Society révèle que 89% des artistes et agents souhaitent la mise en place de lois encadrant l'IA générative, notamment sur la question de la protection de leurs œuvres. Faisons un petit point juridique, même si on n'est absolument pas spécialiste. Absolument aucune formation juridique sur le copyright ou quoi que ce soit. Néanmoins, je pense qu'il y a des choses à détricoter. Il y a effectivement le fait que l'IA puisse s'entraîner sur des images librement accessibles d'artistes. Ensuite, je pense qu'il y a le problème de quel usage de l'image générée. Est-ce que j'ai montré tout à l'heure les chiens de Jeff Koons? Pour moi, il y a une différence entre je génère ces images et après je les utilise pour faire de l'argent. Vous voyez, déjà là, il y a une nuance. Si je les génère pour un usage privatif, je ne pense pas que le préjudice soit immense. Par contre, si j'utilise ces images dans un cadre commercial, là aussi, il y a deux cas de figure. C'est clairement un pompage du style de l'artiste et je fais de l'argent avec le style et le travail d'un artiste. Et il y a aussi le problème que l'artiste ne touche absolument rien sur des droits de reproduction, non pas de ses œuvres, mais de son style. Mais un style est-il déposable ? Là, on arrive effectivement, et on l'a vu, hein, Marion vous a parlé du problème qu'il y a avec Palworld et de l'utilisation éventuelle de l'IA pour générer des Pokémon-like plus ou moins approchants. D'abord, on n'a pas besoin de l'IA hein, pour avoir ce genre de problème. Hein. Les problèmes de plagiat n'ont pas attendu l'IA. Midjourney est créé dans un cadre commercial. T'as raison aussi, Midjourney vend. Enfin, Midjourney n'est pas... Je crois qu'il n'y a plus de formule gratuite à Midjourney. Au début, ça l'était, mais je ne crois plus. Alors, là aussi, hein, je fais l'avocat du diable. Bonjour, je suis l'avocat du diable. Midjourney fait de l'argent. Non. En vrai, Midjourney est largement déficitaire pour l'instant. Si les abonnements sont payants, c'est que ça coûte tellement cher de générer des images par IA pour l'instant. Si Midjourney... Ça, c'est un truc intéressant avec l'IA à comprendre. C'est que si l'IA, et on reparlera avec le Samsung S24 et l'IA dans les smartphones, Samsung a dit que pour l'instant, ces modules IA étaient gratuits, mais on verra en 2025. L'IA, ça coûte hyper cher. Copilot, là, de Microsoft, de l'implémenter de partout, là, dans tous les PC, ça coûte sa mère à Microsoft. Même plus cher que le Xbox Game Pass. Hein. Là, Microsoft est en train de perdre de l'argent à grand flot. Donc, il y a une différence entre faire de l'argent... Alors, c'est une différence ténue, hein. Mais voilà, je me mets dans l'avocat du diable, dans un grand tribunal du mug, hein, puisque nous avons les compétences. Il faut tout voir. C'est peut-être pas prévu par... Alors, l'autre problème, docteur Rictus, et t'as raison, hein. De toute façon, c'est un débat très compliqué. Parce qu'on sait aussi une chose. C'est que si les IA ne peuvent pas être entraînées sur beaucoup d'œuvres, en gros, elles ne servent à rien. Elles ne peuvent pas générer d'images. Et si on dit elles ne seront entraînées que sur des images non copyrightées, elles ne pourront pas produire des images très intéressantes. En plus, un autre problème qui vient se rajouter à ça, et c'est un peu le problème qu'a rencontré Adobe avec sa génération d'images, où au début, il disait « notre génération d'images et notre entraînement de l'IA générative de Photoshop n'est pas entraîné sur des images copyrightées ». Mais très vite, on s'est aperçu que l'IA d'Adobe était entraînée sur des images qui, elles-mêmes, pouvaient être générées par des images copyrightées. Et de toute façon, c'est un des problèmes. Je vous conseille les vidéos de Micode hein, tout le temps. Elles sont intéressantes. Sur les IA deviennent plus paresseuses et moins intéressantes. À fur et à mesure où on est en train de les restreindre, ah bah t'as pas le droit de regarder ces images-là. T'as pas le droit de reproduire un être humain. T'as pas le droit de reproduire des gens connus. T'as pas le droit de représenter des gens nus. T'as pas le droit de représenter ça, t'as pas le droit de représenter une aubergine ou une pêche ou ce genre de choses. L'IA devient, notamment dans la génération d'images, commence à devenir compliquée à utiliser parce qu'elle ne génère plus rien de vraiment intéressant. L'IA d'Adobe Firefly est entraînée sur une base d'images de stock d'Adobe. Oui, mais Oleg, il y a des articles qui montrent que dans la base d'images de stock d'Adobe, Adobe a acheté des images qui avaient été générées et n'a pas vu qu'elles étaient générées. Oui, non, mais Oleg, je suis d'accord. Hein, Effectivement, Adobe essaye de faire... Adobe, de toute façon, ils ont tout intérêt à se placer quand même du côté des artistes. Ils fournissent les outils aux artistes. Il y a eu un bad buzz récemment avec Wacom, hein, qui fait quand même des tablettes pour graphistes, qui, dans une de ses publicités, a utilisé un dragon généré par IA. Ça fait une levée de bouclier. De toute façon, attention, je suis pas en train de défendre l'IA non plus, en disant « Oh, laissez faire c'est freiner le progrès, machin. Ayant été graphiste moi-même quand même, je suis aussi du côté des artistes. Après, je le vois aussi que l'IA va permettre de générer des images que de toute façon, on n'aurait pas acheté à des artistes. Vous savez, on tombe presque dans les problèmes du piratage aussi. J'ai envie de dire, peut-être trouver un moyen que les artistes soient rémunérés, effectivement, comme le dit Olek, quand on utilise, ou au moins que, voilà, il y a une demande de consentement. Il faut nourrir l'IA, mais pourquoi elle se nourrirait gratuitement? De toute façon, l'IA va buter. Ce qui va freiner l'IA, moi, c'est mon pronostic dans les 2-3 ans à venir, ce qui va grandement freiner l'IA rapidement, c'est le problème économique. Aujourd'hui, les IA coûtent trop cher. En tout cas, les IA telles qu'elles sont faites aujourd'hui coûtent trop cher. D'où la nouvelle course des IA à faire des langages plus light, des formules plus légères, des formules d'IA qui pourront tourner en local, sur un smartphone, sur un PC. On a parlé de Mistral, l'IA française, qui est assez novatrice dans ce sens-là, qui arrive à faire des IA beaucoup plus légères en utilisation et presque aussi performantes que des très grandes IA. Les commerçants préfèrent générer une IA moyenne que de payer un artiste pour une campagne de pub. Wendigo, faut... Enfin, moi, je le vois. Nous, on le dit, et je le dis, je suis transparent, et je sais, je me prends déjà des critiques là-dessus, mais je préfère être transparent là-dessus. Nous, on génère, au même titre que les titres de presse, génèrent des images par IA. La question, c'est, est-ce que je les aurais payées si je les avais pas générées par IA? Non. Non, parce que je n'ai pas les moyens économiques de les payer. C'est là où je dis que c'est le même débat que le piratage. Est-ce que le piratage, quelqu'un qui pirate un film, est-ce qu'il l'aurait payé à côté? Rien n'est moins sûr. Mais c'est des débats complexes. Encore une fois, faut pas être manichéen dans ce genre de choses. Faut pas être manichéen. Mais vous voyez, par exemple, dans Photoshop, ça m'est arrivé, le génératif est génial. Mais par exemple, vous pouvez pas lui demander de générer un Samsung, un téléphone de marque. La seule chose qu'il peut générer, c'est un smartphone générique. Les Américains innovent, les Européens légifèrent. Là aussi, Pierre Niève, c'est une vision manichéenne des choses. D'abord, les Américains légifèrent aussi. Là, c'est une class action qui a lieu aux États-Unis, pas en Europe. Donc, de dire « Oui, les Américains, ils sont cool parce que eux, ils se mettent pas de barrières », non, c'est pas vrai. De dire que les Européens n'innovent pas du tout, c'est pas vrai. Mistral, par exemple, c'est européen. Et c'est une bonne chose qu'on légifère, justement. Bref, non, mais c'est moi. Bon, je pense ce que je pense sur la génération d'images, c'est que de toute façon, la génération d'images, son plus grand risque, c'est effectivement un appauvrissement des résultats à fur et à mesure qu'on va légiférer. Donc, est-ce que ça va tuer la technologie? On verra. Est-ce que c'est une bonne chose qu'on légifère? Oui, je le pense. Est-ce qu'on arrivera à trouver un article où la génération d'images restera pertinente malgré la législation? Ça reste à voir. Pour le piratage... Ce que je veux dire, là, vous me donnez des exemples de commerçants qui ne paieraient pas des illustrateurs en faisant des images. Moi, je vous dis, la vraie question, c'est que je pense, d'un point de vue économique, que de toute façon, la plupart des commerçants n'auraient pas de quoi payer un illustrateur. Donc, est-ce qu'ils devraient quand même utiliser une illustration s'ils n'ont pas de quoi se payer un illustrateur? Posé comme ça, vous allez me dire, oui, bah, ils n'ont qu'à pas utiliser d'illustration. Pour moi, le problème est un petit peu plus complexe. Mais le, voilà, Oleg a bien résumé le débat. Le débat est nécessaire. Je ne suis pas du tout anti-législation. À dire, ah, vous freinez l'innovation. Il ne faut pas freiner l'innovation d'un point de vue technologique, mais effectivement, d'un point de vue législatif, il y a un moment, il faut faire wow, 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 wow. Voilà. Le wow, 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 c'est important en technologie. Allez, c'est un débat, vous inquiétez pas. Hein. Dans les années à venir, on va en avoir d'autres débats là-dessus. Hein. Ouais, mais tu vois, tu poses une question hyper intéressante. Si Apple n'est pas encore vraiment dans la course à l'IA générative, oui, Apple est dans l'IA, mais pas dans l'IA générative, c'est aussi pour des problèmes de copyright. Et Apple, ils sont pas cons. Ils savent que beaucoup d'artistes utilisent leurs produits. Donc, s'ils nous balancent un Midjourney dans l'iPhone, générer n'importe quel type d'image, ça va gueuler. Et avec raison. De toute façon. Allez, on continue. Prochain article. Effectivement, très, très grosse fuite de données. Même l'humanité vient de subir la pire fuite de données de l'histoire. Et pas le journal, hein. Je parle de l'humanité. Techniquement, on est en face de ce qu'on pourrait qualifier de violation de données supermassive. 12 teraoctets d'informations personnelles majoritairement issues de fuites antérieures ont été publiées sur Internet dans ce qui semble être la pire divulgation de données de l'histoire. 26 milliards de dossiers compilés par la fuite massive viennent surtout des applications chinoises de messagerie Tencent, Weibo, MySpace, ouais, toujours vivant, hein, 360 millions d'utilisateurs en MySpace, X, anciennement Twitter, Deezer, LinkedIn, Adult Friend Finder, 220 millions de coquinous. Un peu trivial. Adobe, tiens, on en parlait, Dailymotion, Dropbox et Telegram. Et je crois que ça s'arrête pas là. Vous pouvez aller, si on peut donner le lien de l'article, je le dis tout de suite, il y a un outil mis à disposition par CyberNews qui vous permet de rentrer votre mail pour savoir si vous avez été touché par cette divulgation de données. Spoiler! À mon avis, oui. Moi, par exemple, je suis touché. Je suis touché par cette divulgation de données. Effectivement, cette divulgation de données est extrêmement massive. Pour info, la dernière énorme divulgation n'était que de 3,2 milliards d'informations, soit 12% du volume de cette gigantesque fuite. Samuel vient de vous mettre le lien de l'article et dans le lien de l'article vous avez le lien ici mis à disposition d'un outil qui vous permettra de voir, mais je pense que vous avez même pas à cliquer là-dessus. Je pense que, et qu'est-ce qu'il faut faire justement, Jérôme, cette fuite de données, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois me mettre dans un coin de la pièce en faisant oh non? Non, il y a des solutions. On va le répéter, hein, parce que si je sais que je me répète souvent, hein, parce que mais ça c'est le truc que je devrais vous répéter tous les jours. Si tu utilises, oui, c'est à toi que je parle, avec un doigt accusateur, hein, c'est mal poli, mais on va le faire. Toi, qui utilise le même mot de passe sur ton compte Netflix et sur Amazon, on te voit et il va t'arriver des pépins. Et il faudra pas te plaindre. C'est de ta faute. Utiliser le même mot de passe sur deux sites différents est la principale vulnérabilité. Et attention, quand je dis le même mot de passe, si petit malin, ah ouais, le deuxième, je l'ai écrit à l'envers. Hein, ou le deuxième, j'ai changé une lettre dedans. Et jamais le pirate va trouver ça. Non, 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 non. Les gars. Si jamais, par exemple, le mot de passe que vous avez utilisé sur votre vieux compte Dailymotion, c'est encore le mot de passe que vous utilisez sur Amazon, même avec des variantes, qu'est-ce qui se passe quand les mecs, ils ont le genre de fichier? Ils prennent votre mot de passe, et puis tous les mots de passe approchant de celui-là, ils vont les essayer sur tous les sites sensibles, Google, Amazon, Netflix, etc. Voilà. Donc, la seule chose que vous ayez à faire, des mots de passe différents sur tous les sites, mais vraiment différents, pas de la même famille. Et comment vous pouvez... Vous allez me dire, mais Jérôme, j'ai plus de 120 points d'entrée sur Internet, au moins. Moi, je crois que je suis à... On est à plus de 250 identifiants plus mots de passe dans notre boulot. OK ? Vous allez me dire, je vais pas générer 250 mots de passe. Eh bien, il vous faut un gestionnaire de mots de passe qui va faire les mots de passe à votre place. Donc, arrêtez de procrastiner en vous disant, je ferai ça demain. Faites-le. Voilà. Non, mais Kazuda, on a déjà expliqué, tout le monde qui comprend pas les gestionnaires de mots de passe dit « Oui, mais ton gestionnaire de mots de passe, il y a quand même un mot de passe. » Allez vous renseigner de comment ça marche, un gestionnaire de mots de passe. Et clairement, votre gestionnaire de mots de passe, ne mettez pas le même mot de passe que vous avez mis sur Dailymotion il y a 10 ans. Ça, c'est clair. Après, si vous avez envie d'écrire sur un carnet chez vous 250 mots de passe différents, à la limite, c'est moins pire d'écrire sur un carnet vos 250 mots de passe que d'utiliser le même sur 250 sites. Voilà. C'est le pire que vous pouvez faire aujourd'hui sur Internet, et je le redis, hein, je le ressasse parce que c'est important que ça rentre dans votre tête. Utiliser le même mot de passe partout, c'est la principale vulnérabilité que vous ayez. Et si vous voulez un plan d'urgence, là, pour changer vos mots de passe, commencez par tous les mots de passe des sites où vous avez rentré votre carte bancaire. Netflix, Amazon, c'est les sites les plus sensibles et les plus dangereux. Google, extrêmement dangereux aussi. En gros, quelqu'un aujourd'hui qui force votre compte Google, votre compte Apple, votre compte Amazon, votre compte Netflix, ça va être très chiant pour vous. Oui, après, vous pouvez aussi la double authentification, etc. Mais j'essaye déjà le réflexe de se dire non, je ne dois pas utiliser le même mot de passe d'un site à l'autre, et il faut qu'il soit complètement différent. Et donc, je l'ai fait générer par un gestionnaire de mots de passe.
Salut Jérôme, n'oubliez pas de regarder ton...
Je n'avais pas compris ce que tu voulais dire, le griffon. Alors, si tu es en train de me dire que tu as essayé de me contacter sur LinkedIn, je préfère prévenir. Je suis pas du tout LinkedIn. Je fais pas des posts. Je suis pas influenceur LinkedIn et j'y vais une fois tous les 6 mois sur LinkedIn. Donc, c'est pas le meilleur moyen de me contacter. Vous allez dire, quel est le meilleur moyen de te contacter ? Ne me contactez pas. Ne me contactez pas, j'ai pas le temps. Vous avez un email commercial. En fait, ne nous contactez que si vous avez une demande commerciale. Et à ce moment-là, vous allez contacter notre agence. Voilà, point. Je n'ai absolument pas le temps de traiter ni les mails, ni les posts LinkedIn individuels. Je vais être franc. Hein. Donc, contactez notre agence. Le mail que vous pouvez trouver sur YouTube, si vous cherchez un peu, vous mettra en contact avec notre agence. Mais sachez que notre agence ne lira que les mails sur des propositions commerciales. Nous n'avons pas la ressource humaine pour gérer d'autres entrées d'informations ou d'autres réponses. Ah, on va être clair là-dessus. Un jour, des gens ont capturé Marion et tenté de demander en rançon. Ils ont abandonné parce que Jérôme répondait nulle part. Il s'est Non, mais c'est un peu ça. Franchement, le plus drôle, c'est qu'une fois, j'ai répondu à des gens qui m'avaient écrit il y a 5 ans. Un jour, ça m'a pris. Je me suis dit, ah, quand même, je vais répondre à certaines personnes. Et il y a des gens qui ont reçu un message de moi 5 ans après m'avoir écrit. T'as pas l'air fan des posts motivationnels sur LinkedIn. Tu sais, moi, je suis génération X. Hein. Nous, la génération X, on s'en fout, en fait, tout ça. Ah oui, non, j'ai pif. Un truc important, quand même, si vous utilisez un gestionnaire de mots de passe. Il y a un mot de passe qui va être la mère de tous les mots de passe. Ce mot de passe, c'est un peu comme votre code de carte bancaire. C'est quelque chose... Moi, par exemple, ce que j'ai fait, je vais vous le dire, mon mot de passe pour mon gestionnaire de mot de passe, il n'y a que moi qui le connais. Je ne l'ai même pas divulgué à Marion. Il n'y a que moi qui le connais. Néanmoins... J'ai donné de toute façon un certain nombre de sécurité. Si jamais je me fais exploser par une bagnole en sortant, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, hein, je ne me le souhaite pas. J'ai pris pour l'instant déjà un certain nombre de précautions pour que mon entourage proche, Marion, ma famille, etc., puisse avoir accès à un certain nombre de mes données, sauf mes photos d'aubergine et de pêche, bien sûr, s'il m'arrive un pépin. Voilà, il faut penser à ça aussi. Ben, le truc, tu divulgues aucun mot de passe à personne. Tu peux peut-être, Wendigo. Mais moi, je travaille dans une entreprise où on travaille en collaboration. Oui, il y a des mots de passe qui sont communs à l'entreprise. Mais ça, par exemple, un gestionnaire de mots de passe peut gérer les niveaux de sécurité des mots de passe quand tu travailles en collaboration avec d'autres personnes. Imagine tous les messages d'Apple qui proposent de prêter des devices. Et tout à fait, ça me permet de garder ma posture. Apple nous prête rien. Ils nous connaissent pas. Mais Jérôme, on essaie de vous écrire depuis 15 ans. Je m'en fous. Fallait venir me voir. Oui, mais on n'a pas ton adresse. Je m'en fous, débrouillez-vous, vous êtes Apple. Ah là là. Allez, on continue. Mais voilà... Ce genre de news, bah voilà, des leaks massifs. Si vous voulez dormir tranquille malgré ces fuites de données, un peu d'hygiène numérique, les gars. On passe à l'article suivant. Article de Clubic. Et intéressant parce que, souvenez-vous, hein, quand on a parlé... Pourquoi, lui, il y a des pubs? Ah, parce que je ne l'ai pas mis en... Ok. Bon, c'est pas grave. Les pubs que vous voyez, nous n'avons pas été payés pour les diffuser. Donc, ne les regardez pas. Prenez un post-it et collez-le sur l'écran. L'adblocker. L'adblocker post-it. J'ai rien contre la pub, mais quand je ne suis pas payé pour vous diffuser les pubs, elle ne devrait pas passer. Bref, tout ça pour vous dire, cet article dit que les résultats de Netflix... Ben, sont dans le vert. Et c'est vrai qu'ici, on a beaucoup analysé les derniers moves de Netflix en disant « Oh là là, ils augmentent leur prix. Oh là là, ils vont enlever le partage de comptes. J'arrête Netflix, boycotte Netflix. Il y en a un certain nombre d'entre vous qui ont dit « Ah bah, si c'est comme ça, j'arrête Netflix. » Et beaucoup d'entre vous, vous avez dit « Netflix, c'est dangereux ce qu'ils font. Les gens vont fuir. C'est la fin de Netflix. » Ok ? Bah, pas du tout. Netflix va bien. 260 millions de clients dans le monde début 2024. L'entreprise a réalisé 8,8 milliards de dollars de bénéfices durant son dernier trimestre fiscal. C'est en partie dû au lancement de ses formules moins chères avec la publicité, boosté par le durcissement de la politique de l'entreprise sur le partage de comptes. Donc, une partie de cette croissance quasiment indécente vient effectivement qu'ils ont arrêté d'être laxistes sur les gens qui partageaient des comptes Netflix. Oui, certains ont arrêté Netflix, mais pour Netflix, et c'est ce que je vous avais expliqué à l'époque, quelqu'un qui regarde Netflix gratuitement, ça coûte de l'argent à Netflix. Parce que le mec va bouffer quand même de la bande passante pour regarder son Netflix et ne rapporte pas du tout d'argent à Netflix. Donc, si Netflix perce le regard de cette personne-là, tant mieux. Netflix est très content de perdre des visionneurs. Ce que Netflix veut, c'est des abonnés. Donc, c'est ce que j'essaie de vous expliquer sur l'ensemble de la problématique du streaming. C'est pas le nombre de vues qui compte. C'est le nombre de vues qui rapporte quelque chose. Et j'en profite pour remercier les contributeurs. Merci Pauline pour ton 14e mois d'abonnement. Merci Jerry Casa pour ton 37e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Keris86 pour ton 7e mois d'abonnement. Merci Swan69Net pour ton 27e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Dithyrambic pour ton 14e mois d'abonnement. ACIP Digital, un grand merci pour toi. 24e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Tobalito Twitch également pour ton 33e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Référé JP pour ton 34e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Le train de l'hype est en niveau 2, tout va bien. Merci Synode pour ton 13e mois d'abonnement. Merci Pax Magellanis pour tes 200 bits. Je crois que j'ai remercié tout le monde. Ce sens de l'à-propos, j'ai été briefé par la compta. Il m'a dit, il faut qu'il y ait plus d'argent qui rentre. On me démerde, toi, comme tu veux. Non, mais voilà. En fait, Netflix s'en fout que vous les regardiez. Ce qu'ils veulent, c'est que vous les payiez pour les regarder. Donc, voilà, une grande partie de ces très bons résultats sont expliqués finalement par une offre avec la publicité qui permet à Netflix de proposer une offre quand même beaucoup moins chère. Et ils savent qu'au bout d'un moment, les gens, ça va les saouler la pub et ils risquent, en tout cas une partie des personnes qui prennent un abonnement avec pub, au bout d'un moment, basculeront sur un abonnement sans pub. Donc, c'est un moyen pour eux d'avoir trouvé un compromis. Tu payes, mais on met un peu de pub, comme ça, on n'est pas trop déficitaire. D'avoir verrouillé, effectivement, le partage de comptes, bah, fait qu'il y a un certain nombre de gens qui ont dit, ouais, quand même, j'aimais bien regarder mon Netflix. Je deviens un abonné payant, quoi. Donc ça, ça fait bon résultat. Mais, il y a un résultat plus surprenant. Et qui va vous surprendre, accrochez-vous. Une partie de cette croissance sera expliquée au niveau des jeux vidéo. Vous savez comme on s'est moqué des jeux vidéo dans Netflix, mais qui télécharge ces jeux vidéo dans Netflix? Personne. Ben, vous, peut-être non, mais en fait, surtout avec le fait que maintenant Netflix propose GTA 3, Vice City et San Andreas dans votre abonnement Netflix, ça a créé un engouement. Alors, probablement dû à la sortie prochaine du nouveau GTA, y a beaucoup de gens qui se sont dit « Ah, c'est cool d'avoir 3 jeux vidéo GTA, même s'ils sont un peu vieux. » Bah, ça les a fait s'abonner à Netflix. Et ça, moi, ça m'a surpris hein, aussi. Hein. Mais de toute façon, vous pouvez penser ce que vous voulez, que c'est scandaleux de faire payer des gens et de leur mettre de la publicité. Moi, c'est un peu ce que je pense. Là, ce que je vous donne, c'est juste les faits. C'est que Netflix, d'un point de vue strictement financier, a eu raison de faire tout ça. Parce que leur résultat, qui était en berne il y a un an, et je te parle pas à toi, Stéphane, bah là, ils sont beau fixe et ils repartent à la croissance. Et j'ai pas regardé ce matin les actions Netflix. Je vais faire tout de suite. Mais à mon avis, la bourse a beaucoup aimé ça. Ou pas. Je me trompe peut-être. Hein. La bourse est une science étrange qui consiste à prévoir les prochains moves d'une vieille folle. Ouais, Netflix, oui. Alors, hier, combien ah ouais, plus 10% hier. Pas mal. Donc, après, vous pouvez aussi, et vous avez tout à fait le droit de dire, non, mais Netflix ne fait ça que pour l'argent, il pourrait être plus cool, et que c'est que du capitalisme, machin. Vous avez tout à fait le droit, et c'est un débat qu'on pourrait avoir. Mais d'un point de vue strictement capitaliste, d'entreprise, vu les bénéfices qu'ils font sur le dernier trimestre, qu'ils vont pouvoir réinvestir derrière dans des nouveaux films, dans des nouvelles séries, ils ont eu raison de faire ça. Voilà. Donc je dis pas qu'ils ont eu raison d'un point de vue moral, ça c'est un autre débat, mais d'un point de vue strictement entrepreneurial, d'entreprise, ils ont eu raison de faire ça. Mais que les entreprises ne pensent qu'à l'argent, est-ce que c'est une bonne chose? C'est un débat qu'on pourra avoir dans d'autres émissions, mais pas les miennes. Moi, j'en ai profité pour faire Into the Breach, deuxième jeu des créateurs de FTL, que j'ai pas aimé d'ailleurs. Mais ah oui, je savais pas qu'il était dispo sur Netflix. Ils ont habitué des gens à un service puis augmenté les prix une fois fait. C'est une des bases du commerce, hein. Que ça soit de la drogue ou vendre des biscuits. D'abord, tu cherches des nouveaux clients, tu les habitues à ton produit, tu le fais apprécier. Et puis, bah, après, les captifs, t'augmentent tes prix. Je sais pas si c'est une bonne chose. Mais ne faisons pas les naïfs, c'est comme ça que le commerce marche. C'est pour ça qu'une bonne boulangerie va essayer de faire une baguette, une bonne baguette. J'y pense parce que j'ai enfin trouvé une bonne... Non, mieux, j'ai trouvé une bonne boucherie. Et ça fait presque 20 ans que je cherchais une bonne boucherie, mais qui m'oblige à aller plus loin que toutes les autres boucheries et qui me fait payer plus cher. Donc, est-ce qu'il faut s'effaroucher des bases du commerce? La question se pose. Après, ils prennent des risques, ils sont pas seuls, d'autres solutions moins morales. Ah bah oui, Netflix, là, alors Netflix est quand même dans un territoire maintenant qui est devenu hautement concurrentiel. Hein. Voilà, leur move, bah il y a du monde hein, pour la SVOD. Hein. Oui, s'il y a encore des discussions sur la gestion des mots de passe, continuez en privé ou sur le Discord. C'est pas que vous ayez pas le droit d'en discuter, mais moi, de temps en temps, je me retourne vers la chatroom pour illustrer ce que je suis en train de dire, juste pour vous faire comprendre pourquoi on est obligé de faire un peu la police. Moi, j'ai besoin d'une chatroom relativement claire, parce que je me retourne vers vous à certains moments pour illustrer ce que je dis ou prendre une question ou lire ce que vous dites. Si je dois faire le... J'ai une fraction de seconde pour retenir un message. Si c'est au milieu de vos jeux de mots vaseux, de discussions qui n'ont rien à voir avec la choucroute dont je suis en train de parler, ou ce genre de choses, vous me compliquez le travail. Donc, nos modérateurs sont équipés de sulfateuses. Toute discussion qui s'éloigne trop du sujet que je suis en train de faire, vous allez vous faire sulfater. Voilà. Non, mais je fais un peu de pédagogie. Pédagogie avant le coup de matraque. Pourquoi on va vous taper ? Liberté d'expression ! Ta gueule. J'essaye de lancer un mouvement mécénat pour le mug, mais il prend pas beaucoup. Écoute, ACP Digital, tu sais que ton nom est en... En fait, il y a un cadre en or avec ton nom, juste au-dessus de la comptabilité chez Nowtech. Que tu le saches. Hein. À toi tout seul, tu es notre plus gros mécène. Hein. Alors là, la modération va m'engueuler parce que je viens de vous expliquer comment énerver la modération. Sauf Oleg qui est ravi de sortir sa sulfateuse. Allez-y! Je veux voir si elle n'est pas enrayée. J'attendais pas le mot sulfateuse. Ah, c'est un mot d'une autre époque. Il n'est pas le seul. En fait, Oleg, maintenant, il a fait comprendre le plaisir de la sulfateuse à l'ensemble de la modération. Le tapis de bombe. D'ailleurs, Netflix a augmenté ses prix et ça a marché. Ben oui. En fait, quand vous augmentez vos prix, oui, vous perdez des gens. Mais en même temps, vous augmentez vos prix. Donc c'est toujours un équilibre. Bon, la réponse simple, c'est de dire tant qu'il y aura des cons pour payer, ils ont bien raison de monter leur prix, ce qu'on entend toujours chez Apple. Il y a des limites au système. Le tout est de trouver en fait le point de résistance. Aujourd'hui, Netflix, ils arriveraient en vous disant c'est 50€ par mois. Là, même s'ils auraient largement augmenté leur prix d'abonnement, même moi, je suis pas, tu vois. Et pourtant, je regarde pas mal Netflix, surtout en ce moment. Mais c'est des études de marché, c'est des. Mais contrairement à ce que vous croyez, et Tim Cook l'a dit par exemple très clairement dans une réunion Apple, certaines personnes sont prêtes à payer encore plus cher leur smartphone. Alors ça vous indigne, moi aussi, mais c'est une étude de marché d'Apple aujourd'hui. Certaines personnes sont prêtes à payer encore plus cher leur smartphone que le prix où Apple les vend. Alors, bien sûr, un smartphone d'exception. Mais voilà. Perdre un abonné pas rentable qui bouffe de la bande passante, c'est un gain, tout à fait. Vous savez, il y a un truc... Désolé, hein, je vais sur les trucs, mais c'est important de voir ça en global. Si YouTube, en ce moment, pète les couilles sur les adblockers, il faut que vous compreniez bien une chose. Une vue de YouTube avec adblockers, non seulement ne leur rapporte rien, mais elle leur coûte de l'argent. Il faut quand même comprendre ça. Je suis pas dans le jugement moral. Je suis pas anti-adblocker, etc. On rentre même pas dans ce débat. Mais essayez de comprendre quand même l'autre côté de la barrière. Beaucoup de gens croient qu'une vue YouTube sans pub, bah c'est quand même bénéfique pour YouTube, ça fait des vues. Non, il faut que vous compreniez qu'une vue gratuite sans pub de YouTube leur coûte de l'argent en bande passante. C'est important à comprendre. Après, le débat est très compliqué et comme je vous le dis, je ne suis pas anti-adblocker. Et oui, il y a trop de pubs. Voilà, on va toujours apporter des nuances. Mais du côté de YouTube, ils sont très contents si vous dites « boycott YouTube si je peux plus l'utiliser avec mon adblocker ». Voilà, ils sont ravis. Ils sont absolument ravis. D'une manière générale, j'ai envie de faire une vidéo là-dessus. C'est une vidéo complexe. Aujourd'hui, on est dans un mouvement où la plupart des services Internet vont préférer se débarrasser de vous si vous leur rapportez pas d'argent. On n'est plus dans la course à la croissance du nombre de gens qui regardent des sites. Aujourd'hui, la situation économique pour Internet fait que les objectifs de rentabilité sont beaucoup plus courts qu'avant. On peut plus avoir une start-up qui, comme Facebook, n'a pas généré d'argent pendant plus de 10 ans. Voilà. Donc, je préfère vous prévenir. Internet gratuit, c'est finito de chez finito. L'Internet où le seul but était de recruter des gens et de pouvoir dépenser énormément d'argent juste pour les recruter. Alors, Microsoft va le faire pour l'intelligence artificielle, mais ne va plus le faire sur des services Internet. Là, Microsoft dépense énormément d'argent et n'est pas rentable sur l'IA et sur les jeux vidéo pour vous recruter. Après, ils mettront les vrais prix pour devenir rentable. Mais sur Internet, c'est fini, hein. C'est fini. Après, vous pouvez trouver ça scandaleux, injuste. Vous pourrez vociférer dans tous les sens. Je vous le dis, et c'est juste une information, c'est pas une opinion. Internet gratuit, n'y croyez plus. C'est finito. Et en fait, ça n'a jamais existé. Mais bon, bref. Allez, on continue sur les articles, parce que là, je m'enfonce dans des congères de gravier. Il est déjà 8h59. On va parler de l'Apple Car. Mais est-ce qu'on va vraiment en parler? Je sais pas. En tout cas, le projet serait repoussé à 2028. Moi, en lisant ce titre, je me suis dit, ah, ils veulent encore faire une voiture, Apple? C'est vrai que, pour moi... Apple avait un peu abandonné l'idée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'était mis de côté, la voiture Apple. Je pensais qu'ils avaient un peu abandonné l'idée. On avait discuté à une époque qu'ils voulaient juste se concentrer peut-être sur la conduite, mais pas fabriquer une bagnole, quoi. Selon l'article, Apple avait initialement prévu de développer l'Apple Car comme voiture sans conducteur entièrement autonome de niveau 5. Ben, en fait, ils n'y arrivent pas, manifestement. Ils travaillent plutôt sur une conduite autonome de niveau 4. Alors, la différence entre une niveau 5, une niveau 5 n'a absolument pas besoin d'une intervention humaine, quelle qu'elle soit. Le niveau 4 de la conduite autonome, c'est quand même entièrement automatisé. C'est la dernière étape avant la conduite autonome. Elle prévoit que le véhicule roule majoritairement de façon automatique. Le véhicule peut maîtriser seul des situations de circulation urbaine très complexes, telles que des zones de chantier. Le conducteur doit néanmoins être en état de conduire afin de pouvoir reprendre le volant si nécessaire. Donc la présence d'un conducteur humain est obligatoire dans le niveau 4. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en termes de conduite autonome, par exemple, une Tesla, elle est au niveau 2. Elle est même pas au niveau 2+. Dans les niveaux de construction autonome. Et a priori, Apple travaille pas sur un niveau 4 actuellement. Il travaille sur une voiture de niveau 2+. Qui va se concentrer sur les fonctions d'aide à la conduite proches de celles des véhicules Tesla. Les véhicules autonomes Les véhicules autonomes de niveau 2 comprennent des fonctions d'assistance à la direction, au freinage et à l'accélération, mais exigent que le conducteur garde le contrôle de la voiture et reste attentif à la route. Un énorme merci à CIP Digital qui veut garder sa place sur le tableau d'honneur de la comptabilité Nowtech en offrant 10 abonnements communautaires ce matin. Un énorme merci à toi. Merci également Hélène JJJ pour ton 39e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est du zbeul. Merci Koala Mouillé pour ton 14e mois d'abonnement. Merci Armakix Nox pour ton 6e mois d'abonnement. Merci Eloriel 29 pour ton 27e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Je crois que j'ai remercié tout le monde. Si j'en ai oublié, vous serez récompensé en pensée très fortement. Passer au niveau 4, au niveau 5, c'est moins un problème de technologie que de législation. Tout à fait, Oleg. Tout à fait. C'est-à-dire, par exemple, les taxis autonomes où il n'y aurait personne dedans, que des passagers, c'est le niveau 5. Il y a des expérimentations, mais on n'y est pas encore. C'est plus facile, par exemple, on arrivera peut-être plus facilement au niveau 5 sur des véhicules type bus, etc., qui ont des parcours réguliers, que sur des taxis, quoi. Mais en arrivant dans 4 ans avec une voiture autonome niveau 2, ils vont pas être juste méga en retard sur le marché. Ben, on n'en sait rien. De toute façon, attention avec ce genre d'article. Ça ne veut pas dire qu'Apple va faire une voiture. Si on lit entre les lignes, c'est juste qu'ils revoient leur projet à la baisse, en fait. Qu'ils voient qu'ils n'y arriveront pas pour les dates prévues qui étaient 2026, donc qui se rajoutent 2 ans, et qu'ils n'arriveront pas aux objectifs qui s'étaient fixés. C'est pas leur métier. En fait, le truc, c'est que... Alors, est-ce que Apple va construire le moteur de la voiture? Rien n'est moins sûr. Par contre, quand tu vois qu'aujourd'hui, c'est Nvidia qui équipe les voitures autonomes... Enfin, c'est un vrai débat. Est-ce que Tesla est une boîte tech ou un constructeur automobile? Je trouve que c'est un vrai débat. Pour vous, est-ce que Tesla est un constructeur automobile ou une boîte tech? Et vous n'avez pas le droit de répondre les deux. Majoritairement, Tesla, aujourd'hui, est-il un constructeur automobile ou une boîte tech? Deux premières réponses, vous n'êtes déjà pas d'accord. Ils font des voitures, c'est un constructeur auto. C'est très discutable. La partie logicielle dans les Tesla, vous savez, c'est comme dans la photo sur smartphone, la partie logicielle est devenue au moins aussi importante que le hardware photo qu'on met dans les smartphones. Eh bien, le software automobile est au moins aussi important que la motorisation dans une Tesla. Et pourtant, Tesla, vous dites tous, c'est un constructeur auto. Pourtant, ils vont faire des robots, font des batteries, font même des lance-flammes. Donc, est-ce que c'est qu'un constructeur automobile? C'est une vraie question intéressante, hein. Mais Tesla ne fait pas que des voitures, déjà. Là, ils vont faire des robots. Donc là, est-ce que c'est une boîte tech ou est-ce que c'est un constructeur automobile? Ils font des batteries qu'ils vendent déjà pour les maisons. On pourrait même aller plus loin. Est-ce que c'est à ce moment-là, est-ce que c'est pas un constructeur de batteries? Alors, ils font pas directement les batteries, mais ils mettent leur marque dessus. Allez, les gars, faites pas les Français, là. À ne pas accepter que vous ayez tort. Et à trouver des arguments bidons. Renault, ils vendent des voitures et des porte-clés aussi. Peugeot, il fait des courroies et des poivriers aussi. Est-ce que Peugeot est un fabricant de poivriers ou un constructeur automobile? Sachant que c'est pas exactement la même boîte, mais... Hein, et Samsung? Samsung, c'est quoi comme entreprise? Bah voilà, Olivier a eu la même idée que moi. Samsung, c'est quoi? C'est un fabricant de quoi? C'est une boîte tech? Bah, ils construisent des immeubles, c'est tech, un immeuble. Samsung, c'est un fabricant de tout. Ah, vous voulez des choses? Voilà. Un fabricant doit faire qu'une chose. Et on doit bien mettre une étiquette dessus. Techniquement, c'est pas une holding, Samsung, Anaïs. Une holding, c'est encore autre chose. Bref, on est en parti complètement sur d'autres discussions. Ça vous intéresse pas, hein, la voiture Apple, en fait. Est-ce qu'ils vont la sortir? Dans quelle mesure ça sera vraiment une voiture Apple? On sait que Apple avait approché... c'était qui, d'ailleurs? C'était en constructeur. Ils avaient approché qui? Enfin, il y avait eu des rumeurs, hein, bien sûr. Chez Apple, ça reste très secret. Honda, ouais. Moi, ce que j'ai toujours... Parce que quand même, la voiture Apple, on en parle depuis 2014. 2014, le siècle dernier. Hyundai, ouais. 2014, c'était le siècle dernier, on est d'accord. Donc, ça fait longtemps qu'on en parle de la voiture. Et déjà, à cette époque-là, et je garde mon pronostic, Apple ne va pas sortir une voiture que vous pourrez acheter. S'ils sortent une voiture un jour, ça sera... avec un modèle d'utilisation qui ne sera pas dans la voiture vous appartient et vous la mettrez dans votre garage. Apple ne sortira pas une voiture individuelle. Ils sortiront une voiture avec un système de covoiturage éventuellement. Parce que dans 6 ans, je pense que ça sera une économie en passe de devenir dominante dans l'automobile. Est-ce qu'ils vont fournir un Vision Pro? Oh, le Vision Pro, il sera à la limite gratuit dans 6 ans. Donc, le fantasme de « je vais m'acheter ma voiture Apple », qui sera une espèce de Porsche Tech, hyper chère pour moi, je ne sais pas si Apple va dans cette direction-là. Je pense que si Apple sort une voiture, elle sera avec un système où vous appelez votre voiture, mais que vous partagez avec tous les gens, avec tout le monde. N'importe qui pourra appeler une voiture Apple quand ils en ont besoin. Elle viendra se garer en bas de chez eux, pourront monter dedans, ça les amène à un endroit. Ils sortent de la voiture et après la voiture repart dans le circuit. Mais vous ne pourrez pas acheter votre Apple Car. Oui, c'est une forme d'ubérisation de la voiture individuelle. Non, ce n'est pas exactement un bus, parce que c'est plus comparable à un VTC sans chauffeur, qui va t'amener là où tu veux et qui vient te chercher en bas de chez toi. Pas comme un bus. Et en tout cas, pour la conduite urbaine, c'est clairement l'avenir. C'est clairement l'avenir. C'était celui-là, l'article rapide. Oh, ça va! Allez, on continue. Le sideloading arrive sur iPhone, mais vous risquez d'être déçus. Là, celui-là, je vais vraiment être rapide. Je ne regarde pas le chat parce qu'on en a déjà parlé. Effectivement, Apple, on le sait, doit se conformer au DMA européen, nouveau règlement de l'Union européenne pour les géants de la tech, va devoir intégrer une forme de sideloading. Sideloading, ça veut dire qu'il doit permettre à d'autres stores que l'App Store Apple d'exister, de pouvoir exister sur sa plateforme. Apple n'a pas le droit de dire « c'est moi qui ai fait ce smartphone, c'est mon OS, vous n'avez le droit ». Ils ont le droit de faire leur marché, mais ils n'ont pas le droit de fermer à la concurrence d'autres marchés. Je sais que le premier effet, c'est de dire bah, « ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent ». Ben non, c'est pas comme ça que ça marche, la loi du marché. Tu n'as pas le droit de bloquer, d'empêcher l'émergence d'une concurrence. Donc, après, Apple, c'est des malins. Et on l'a vu, j'en avais parlé la semaine dernière, Apple commence à dire « Bah oui, alors on va permettre le sideloading. Donc au lieu de prendre 30%, on va prendre 27%. » Et intellectuellement, leur démonstration, elle est légalement, ça a l'air de tenir debout, puisque pour eux, les 27% représentent les droits d'utilisation de leur OS. Donc, en gros, ils vont faire ils vont dire, ouais, pas de problème, vas-y, ouvre ton, tu peux ouvrir un marché concurrent au mien sur ma plateforme. Pas de problème. Je vais même te faire un cadeau. Je t'enlève les 3% de commission que je prenais sur les transactions. Les transactions, le côté bancaire, vous savez, les fameux 3%. Je te les enlève. Grand prince. Par contre, les 27%, voilà. OK. Apple, c'est un peu touche pas au Grisby, hein, quand même, hein. De toute façon, Apple, faut pas toucher à leur marge. Ils sont passifs-agressifs, Apple. Commercialement, ils sont pas d'une extraordinaire agressivité. On l'avait souvent dit à un mec de chez Apple, quand on lui dit « Ah, regarde, le dernier Samsung, il fait des trucs que vous faites pas, c'est trop bien, machin et tout », il va faire « Ouais, impressionnant ». Puis il va continuer son chemin. Mais par contre, si tu lui dis hey, « Hé, je vais prendre sur ta marge », là, Apple, c'est « Tu vas prendre quoi ? Je m'en fous que tu me dépasses technologiquement. Je m'en fous que tu aies mis un x10 optique sur ton smartphone. Je m'en fous d'être en retard technologiquement. J'en ai rien à foutre. Par contre, tu touches pas à ma marge. » En vrai, en termes de gestion d'entreprise, voilà. Là, c'est Sainte Marge. Chez Apple, il y a des petits hôtels avec Sainte Marge dedans. Exactement. Ben, en vrai, voilà, ça leur permet d'être aujourd'hui l'entreprise la plus riche du monde et riche en trésorerie. Voilà. C'est-à-dire que Apple peut s'effondrer comme n'importe quelle entreprise, mais avec la trésorerie qu'ils ont, ils vont mettre une vingtaine d'années à s'effondrer. Alors, il y a une autre rumeur qui dit que Apple, pour se conformer au DMA, en fait, va tout simplement splitter le store. Il y aura un store européen et un store américain. Store américain n'acceptera pas d'autres applications et d'autres systèmes de paiement. Le store européen aura une partie où Apple va te faire une pop-up en disant « Attention, vous sortez de la zone sécurisée de l'App Store. On n'est responsable de rien. Il risque de vous arriver des grosses merdes. Vous allez perdre votre argent et votre être aimé, mais vous êtes libre. Allez-y, allez prendre les applications là-bas. » On va quand même prendre notre marge dessus, mais vous sortez de la protection, Apple. Ah. Après ces murs, c'est l'horreur. C'est un peu ça, ouais. Ouais, j'ai pas fait d'article sur les 40 ans du Mac. J'avais trop d'articles ce matin. Mais effectivement, c'est les 40 ans du Mac. Bon anniversaire, Mac. On a dit, regarde pas le chat. Merde, oui, je vais pas regarder le chat. T'as raison, Olek. Putain, moi aussi, je me prends des coups de sulfateuse. Hein. Donc, effectivement, si vous croyez avoir un regain de liberté avec le DMA européen, comptez sur Apple pour protéger son système par tous les moyens légaux. Mais ils ont des bons... Ils ont des bons avocats hein, chez Apple. Ils savent bien lire entre les lignes des lois européennes. Donc, tout ça pour dire, si vous voulez vraiment la liberté de télécharger des applications sans qu'il y ait un Google ou un Apple qui prenne des 30 ou des 15% sur les développeurs, eh ben vous restez sur Android. C'est le seul moyen de sideloader tranquille. Le rapide est déjà dépassé, oui. Ah, mais laissez-moi faire mes articles quand même. Donc, voilà, on n'aura pas la même liberté. Hein, c'est la conclusion de l'article entre Android et Apple, même avec le DMA européen. Parlons un tout petit peu du Vision Pro. Je vous livrerai un petit peu les résultats de la première journée de vente. Dès demain, normalement, les premiers acheteurs vont les avoir en main, les Vision Pro aux États-Unis. Hein, pour l'instant, la vente n'est qu'aux États-Unis. On a parlé du phénomène que les préventes, en 18 minutes, ils avaient quasiment tout vendu. Ce à quoi je dis, même si le nombre d'exemplaires est important, c'est pas forcément une indication de succès ou de flop, c'est juste l'indication que les influenceurs, les youtubeurs américains qui voulaient absolument l'avoir pour faire un test et des acheteurs fortunés et early adopters en manque de FOMO, fear of missing out, les ont achetés très vite, les premiers exemplaires. Mais ce que disait l'analyse, c'est que après cette première vague de commandes, les délais se sont pas tellement allongés. Ce qui veut dire qu'il y a eu un pic de commandes énorme dans les 30 premières minutes, mais après, ça s'est vite tassé. Contrairement, par exemple, à la sortie d'un nouvel iPhone, où généralement, les délais de livraison, toutes les heures, augmentent parce que les commandes affluent, en fait. OK ? Mais il y aura peut-être un autre phénomène. C'est ce qu'on appelle les scalpers. Alors, les scalpers, c'est des gens qui ont bien compris qu'il y avait un marché du FOMO, et qui ont développé des algorithmes d'achat automatique de certains produits. Des baskets en série limitée, un produit où on sait que les stocks vont partir très vite, bah eux, ils s'y mettent avec leur logiciel de commande. Ils ont des logiciels assez sophistiqués qui permettent de commander un grand nombre, soit de tickets de concert, soit de baskets. C'est des bots, effectivement, des bots de commande. Qui arrive à contourner, parce qu'il y a des systèmes anti-bots de commande. Là, chez Apple, je crois que tu n'as pas le droit d'acheter plus de 2 Vision Pro avec un seul compte. Donc, ils savent automatiquement switcher de compte. Et là, on se dit même, c'était impossible, puisque pour acheter un Vision Pro en ligne, il fallait scanner ton visage avec Face ID pour que Apple détermine la forme de ton visage et te donne la bonne finition pour ta forme de visage. En plus, il fallait rentrer son Apple ID, etc. Donc ça, normalement, un bot, il ne sait pas faire. Alors, d'après les scalpers, d'abord, ils savent faire ça aussi. Ils avaient préloadé des faux profils, mais au-delà de ça, ils disent oui, mais c'est vrai que ça aurait ralenti les bots parce que la validation de la commande est plus longue avec cette validation de messages, etc. Donc, ça aurait pu être un problème. Mais ce qu'on oublie, c'est que Apple faisait, dans le journée de précommande, dans le premier jour de précommande, tu pouvais le précommander et venir le chercher en magasin ou la mise à la taille allait être faite en magasin. Et d'ailleurs, beaucoup de gens, les seuls à l'avoir eu le plus rapidement possible, ils ont compris qu'il fallait surtout pas faire le scan du visage, ça te fait perdre trop de temps. Quand les précommandes se passent dans les 10 premières minutes, la moindre, et je le sais, hein, pour précommander des iPhones et stresser de les avoir pour pouvoir faire nos tests à temps, il y a toute une stratégie de commande pour être sûr de l'avoir. Bah, en fait, il y a beaucoup de scalpers qui les ont commandés et qui maintenant vendent sur eBay le Vision Pro avec en plus le truc de vous allez pouvoir, il faut l'acheter si vous êtes dans telle région, bah, j'en ai tant à tel App Store et vous allez le chercher et ils vont prendre la mesure de votre visage, donc il sera bien à votre taille en fait. Alors, sur eBay, ils arrivent à les revendre. Alors, 10 000 dollars, c'est beaucoup, mais c'est entre, oui, 5 000, 6 000 dollars et 8 000 dollars actuellement, le prix d'un Vision Pro sur eBay. Ben, Sir Newt, quand tu dis ils sont riches, non, pour être exact, ça veut dire qu'ils ont une capacité d'investissement. Mais pour eux, c'est sûr. Imagine. Et là, c'est surtout ce que je voulais dire dans l'article. A priori, d'après les chiffres qui circulent, ils auraient réussi à en commander. En tout cas, il y a un site de scalping qui a réussi, enfin un groupe de scalpeurs qui a réussi à en commander 1592. Alors, un petit peu de mathématiques de bon matin. J'achète 1592 Vision Pro à 3 999 dollars. Ok. Combien ça me coûte? Premier calcul. Deuxième calcul, si je les revends avec 2000 dollars de marge, combien ça me rapporte? Vous pouvez arrondir à 1600. 1600 fois 4000. Vous êtes ma calculette ce matin. Ok, l'investissement sur Newt, il est de 6,4 millions. Ok? Maintenant, tu revends tout ça avec 2000 dollars de marge. Quel est ton chiffre d'affaires? Ah oui, il faut les avoir, les 6,4 millions. Je dis comptant en avance. Alors, dites-moi le chiffre d'affaires. Je revends maintenant tous mes Vision Pro, mes 1600 Vision Pro, en gros, je fais une opération, ce que nous dit l'écureuil, les mecs ont fait 3,2 millions de dollars de bénéf sur l'opération. Ok ? Ça vaut le coup. Si tu peux investir les 6,4 au début, tu les récupères après et tu fais un bénéfice de 3,2. Donc, tu doubles ta mise. Enfin, non. Tu gagnes 50%. Tu as fait 50% de marge. C'est pas mal. Une marge que pourrait leur envier Apple. Ah bien sûr, le bénéfice n'est pas certain. C'est là où il faut être bon. Effectivement, est-ce qu'ils vont se retrouver avec des casques sur les bras? Est-ce si l'engouement du Vision Pro fait qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui est prêt à débourser 4 000 plus 2 000, donc 6 000 dollars pour avoir un Vision Pro? Si les gens sont... Si le FOMO n'est pas assez puissant pour que certains ultra-riches soit prêt à dépenser 6 000 dollars pour l'avoir coûte que coûte dès demain, t'as raté ton EP. Qui va acheter ça? Tu sous-estimes le FOMO, Sir Newt. Tu peux même pas. Alors, je vais te donner un exemple de personne qui est prêt à dépenser 6 000 euros. Une grosse chaîne YouTube n'a pas réussi à avoir son Vision Pro. Et a priori, alors ça va être intéressant à regarder, a priori, les premiers tests du Vision Pro vont te rapporter beaucoup d'argent. Pour peu, en plus, que t'aies déjà vendu un sponsor dessus. T'as pris un sponsor, Monsieur Chiffonnette, qui fait des chiffonnettes à $30, mieux que celle d'Apple. Monsieur Chiffonnette te dit, je te donne $30,000 et tu me places dans ta vidéo que tu vas faire du premier test du Vision Pro. Bah là, pour le coup, si je sais qu'on m'a acheté mon emplacement sponsor à $30,000, sans même compter le YouTube Money que va me rapporter les vues, bah même si je dépense $6,000, et les $6,000, ça sera pour faire la vidéo. Alors ça, c'est dans le cas d'un achat, entre guillemets, rentable du Vision Pro. Mais après, tu te rends pas compte, mais $6,000 pour certains... J'ai envie de dire ultra riche, mais même pour certains riches, ils ont tellement envie de l'avoir le jour 1 qu'ils sortiront les $6,000. Après, tu peux penser qu'il y aura très peu de gens. On verra. On verra. Mais le fait déjà qu'en 18 minutes, si Apple a vendu 180 000 exemplaires d'un produit à $4,000, qui est un prototype, ça veut dire qu'il y a déjà pas mal de gens prêts à dépenser $4,000 pour un produit qu'on ne sait pas encore exactement. Voilà quoi. Et en vrai, ils dépensaient $4,000 parce qu'on l'a vu et beaucoup l'ont dit. 3 500, c'est le prix d'entrée. Et t'es un peu... pas obligé, mais tu vas prendre les accessoires à côté, la batterie supplémentaire, un peu plus de stockage. T'arrives très, très vite à 4 000, 5 000 euros hein, pour le Vision Pro. Hein. Non, mais vous, en fait, vous vous rendez pas compte, mais quand vous dites 6 000 dollars pour des mecs comme Musk ou Bezos, c'est comme si j'achetais ma baguette de pain, mais même pas. 6 000 dollars quand t'as une fortune comme Bezos ou Musk, s'il revend ses actions, $6,000, ça représente même pas une baguette. Ouais, peut-être une baguette. En fait, c'est un autre monde, quoi. C'est une chouquette, voilà. $6,000, c'est une chouquette. Il y a des mecs qui, toute somme inférieure à 100 000, c'est même pas une ligne en comptabilité. Quand vous voyez qu'il y a des gens qui sont prêts à dépenser pour réserver une suite dans un hôtel... qui va être à $100,000 la journée. Est-ce qu'il y en a des suites de... Ouais, il doit y en avoir des suites à $100,000 la journée. Donc, oui, pour nous, enfin, le commun des mortels. Vous voyez, même moi, avec la chaîne YouTube que j'ai, la taille que je l'ai, investir $4,000, même... Alors, je vais être franc, aucun sponsor nous a demandé à être sur la... On verra, parce que de toute façon, la sortie n'est pas française. Et moi, je savais un peu en avance que Apple allait mettre beaucoup de freins à ce qu'on l'utilise pas dans d'autres pays que les États-Unis, pour pas mal de raisons, en fait. On verra à la sortie française. L'avantage qu'on va avoir, nous, créateurs de contenu tech... c'est qu'on aura déjà vu les résultats américains. Est-ce que c'est un produit qui intéresse ou pas? Est-ce que ça vaut le coup de faire une vidéo là-dessus? Est-ce que ça va faire des vues? Pour l'instant, la vidéo que j'ai faite sur le Vision Pro, c'était la semaine dernière, elle a fait des vues, mais c'est pas non plus un banger. Donc, c'est pas au cœur des préoccupations des gens, hein, le Vision Pro, surtout en France où il n'est pas distribué, ouais. Putain, il est 9h30. Allez. Vous savez quoi? On va garder l'article de fin. Et j'avais un peu prévu. On va dire que je sais exactement ce que je fais. On en parlera plutôt demain de ça. Parce que c'est plus un avis débat. enfin un article débat sur l'IA ne remplacera pas encore votre emploi car elle est trop chère. Vous pouvez aller lire l'article, hein, si la modération peut vous mettre le lien de l'article. Puis comme ça, on peut en parler demain. Des coûts de l'IA, parce que c'est ça qui est intéressant aussi. Peut-être en fait que l'IA va pas remplacer aussi vite qu'on l'avait pensé certains boulots. Parce que effectivement, ça coûte cher l'IA. Ça coûte cher à mettre en place, ça coûte cher à l'utilisation. Après, bon, c'est pour ça que j'ai besoin de discuter avec vous de l'article, parce que je comprends pas très bien leurs calculs. Mais manifestement, ils ont fait ça que sur certains types de boulots qui coûteraient très cher à remplacer par de l'IA. Mais on verra. Tu ferais pas une prise en main si un collègue te le prête ? Franchement, j'ai pas de d'Apple ID américain. C'est chiant à créer. On va pas pouvoir l'utiliser. Je peux pas dire non. Si quelqu'un m'en prête un, je verrai. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de Français. Je sais qu'il y a Wallan qui en a commandé un. Il y aura Romain Lanéry parce qu'il est aux États-Unis. Il y a qui, The Eye Collection, je suis même pas sûr qu'il l'ait. Que Apple lui en prête un, vu que la sortie est pas française. Je suis même pas sûr que, il y a énormément de Français qui l'aient. En plus, il va être dur à utiliser en France, hein, au début. Parce qu'Apple a mis pas mal de restrictions. C'est faisable. Oui, il y a... J'ai vu, il y a... Comment il s'appelle ? Ah, je le connais en plus en Suisse. Comment il s'appelle ? YouTuber Tech Suisse qui l'a acheté. Jojol, je suis pas sûr, hein. En dehors même de l'investissement de devoir payer un voyage aux États-Unis, l'avoir, même Romain, je crois qu'il n'a pas réussi à l'avoir pour la sortie de demain. Je crois qu'il va l'avoir en mars. Mister Perrier, ouais, il l'a eu. Apple a mis un certain nombre de restrictions pour pas qu'on l'utilise en dehors des États-Unis. Donc oui, Jojol, entre guillemets, après, je suis pas dans la comptabilité de Jojol, aurait probablement de quoi investir. Nous, on n'aurait pas de quoi investir cette somme d'argent. C'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, mais je me suis auto-interrompu. Nous, voilà, 4 000 $ plus un billet en avion, plus quand même une nuit d'hôtel, machin, ça aurait été très dur pour nous de rentabiliser. Si on avait pu l'utiliser en France, ça aurait été très dur de rentabiliser l'achat d'un Vision Pro, même si on l'avait revendu derrière. Tu vois, donc j'ai absolument pas voulu prendre le risque pour ma chaîne d'investir de la trésor pour l'avoir. Peut-être qu'un Jojol pourrait, mais en fait ça aurait peu d'intérêt. Et puis je pense aussi que les youtubeurs français ont vu que pour l'instant, il y a un peu Léo Duff qui a fait un peu des vues avec sa vidéo sur. Mais Léo Duff, de toute façon, fait automatiquement des vues parce qu'il a une communauté très active qui regarde tout ce qu'il fait. Mais après, le sujet Vision Pro est pas un sujet 100% porteur en France. Toi, Locan, tu l'as commandé, tu vas le récupérer le 2 février. Bah, écoute, tant mieux pour toi. Bah, le truc, c'est, encore une fois, hein, il va pas être si simple à ça, que ça à tester. Parce que tu vas pouvoir utiliser que des logiciels américains en américain. Oh, bah, ça, c'est pas un gros problème. Il faut que tu aies une ID américaine de l'App Store américain. Bon, ça, c'est pas non plus la mer à boire, mais c'est pas aussi simple que ça, quoi. Sans parler que si tu as des problèmes de vue, tu peux pas mettre tes lunettes dessous. Moi, par exemple, c'est un des problèmes. Si on me le prête, comment je fais ? Alors, mettre des lentilles. Ouais, je pourrais peut-être, mais encore une fois, ça va dépendre de l'engouement autour du Vision Pro en France. Et pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y a un engouement de ouf. « En parlant de vue, c'est quand pour la future de traduction des voix vous allez vous exporter? Faut jamais dire jamais pour l'instant, parce que ça demande quand même du travail, hein. Même si les voix sont automatiques et tout, faut gérer des chaînes en langue étrangère. C'est pas dans nos projets immédiats. Ouais, les lentilles de casse sont faisables que aux US avec une ordonnance US, ouais. Mais ça va être intéressant de voir la sortie des youtubeurs américains demain. Peut-être qu'il y aura des youtubeurs français, hein. Peut-être que je suis le seul à pas l'avoir, hein. Peut-être, hein. Il y a une sortie vidéo pour Rex qu'on voit dans le casque, oui. Ouais, Oleg. D'après ce que j'ai vu, il y a un moyen de record ce qu'on voit. Alors, ça ne pas vraiment. Ah, mais Locan, tu es le Locan Sardari, en fait, Locan 17. Toi, tu l'as commandé. T'es le Locan. Putain, oui, ça fait des. Est-ce que tu es le Locan de la chaîne YouTube Locan? Alors, pourquoi Apple a autant verrouillé cette sortie? Je pense que d'abord, ils savaient très bien que c'était un produit qu'ils allaient produire en très peu de quantité et qu'ils voulaient éviter des marchés parallèles et des scalpers dans certains pays. Comme c'est déjà arrivé avec certaines sorties d'iPhone, et ça avait un peu échaudé Apple. Vous avez des marchés parallèles, hein, des marchés noirs qui ont des moyens pour acheter des grandes quantités de produits Apple, surtout dans des marchés où Apple n'est pas. Je pense que c'est la raison numéro un pour laquelle Apple a mis autant de verrouillage autour de ce produit pour pas qu'il sorte des États-Unis. Bon, on le voit avec l'article sur les scalpers, c'est à demi réussi. Mais en même temps, je pense que ça diminue quand même l'appétence de l'acheter. Que de se dire ça va être compliqué à utiliser. Pour un testeur, je dis pas, c'est pas impossible d'installer un store américain, etc. Mais pour un utilisateur, ça veut dire repayer ses apps, ne pas pouvoir synchroniser ses photos. Enfin, il faut complètement vous refaire une identité Apple, quoi. Voilà, bon, on va devoir s'arrêter là, il est 9h40, mais c'est intéressant. On n'aura pas la réponse si Locan 17, c'est Locan de YouTube. Mais tu as le droit de garder ta vie privée. Tu as tout à fait le droit. Tu es protégé par le premier amendement du chat Nowtech. Tu as le droit. Perso, ça m'embêterait de devoir gérer les deux ID. Oui, voilà, pour une utilisation. Moi, dans mon fort intérieur, je suis pas pressé de le tester, genre pour faire une vidéo rapidement. J'ai pris en main le Vision Pro, mon avis. Même si je le ferai, ça fait partie de l'exercice. Les vidéos qui vont être les plus intéressantes, c'est celles qui sortiront dans 6 mois. Est-ce que j'utilise encore mon Vision Pro? C'est celles-là qui vont vraiment être intéressantes pour moi. Et c'est pour ça que je suis presque plus intéressé pour en acheter un avec la chaîne à la sortie française pour pouvoir l'utiliser long terme pendant 6 mois. Parce que ce qui m'intéresse, c'est pas le Vision Pro, c'est la vision d'Apple sur le spatial computing. Est-ce que ça a de l'avenir? Je sais très bien que le Vision Pro V1, c'est un proto type. Trop cher et tout, quoi.
J'aurais dû dire bonjour, il ne m'a pas reconnu, il ne m'a pas répondu. Ah, peut-être. Un gros risque de se retrouver avec un produit tronqué, ouais.
Ah, désolé, Locan, pas, arrêtez de vous acharner, il fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai que comme tu as dit que tu l'achetais, après, tu as le droit d'être un particulier de l'acheter. Mais en tout cas, je connais pas, j'ai pas vu beaucoup, parce que The High Collection a posé la question sur Twitter X de qui allait l'acheter en France. Et dans les réponses, je n'ai vu que bah, Wallan, c'est un influenceur moto. Mister Perrier, j'ai pas vu beaucoup de particuliers dire qu'ils allaient l'acheter. Donc voilà, juste pour détricoter pourquoi on t'a posé la question. On oublie, c'est la fin de l'émission. Non, mais j'ai pas envie qu'on m'en ramène un des États-Unis. Il y aura même pas de garantie. Attends, zéro garantie sur un produit à 3 500 €. Je le pète en l'unboxant. Et je parle pas de l'Apple Care, hein, je parle de la garantie. Je vous souhaite une excellente journée. Bien évidemment, nous allons faire un raid. Chez qui nous allons raider? Raider. Je regarde ce que font les gens. Un petit peu. De quoi il parle Samuel ce matin? Bon, je vais vous envoyer chez Samuel. Je vais vous envoyer chez Samuel continuer les news. Je vous rappelle qu'on se retrouve demain matin pour le mug gravier, avec un tout petit peu plus de gravier que celui-ci. Là, vous dites, mais comment est-ce possible? Vous le découvrirez demain matin. Qu'ai-je d'autre à vous rappeler? Ce soir, il y aura bien le jeudi contributeur à 18h. Donc, tous les contributeurs. J'ai pas remercié d'ailleurs les derniers contributeurs. Bartou56 pour ton 32e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Yanis pour ton Prime 19e mois d'abonnement. Merci Albedo 1972 pour ton Prime. Merci ACP Digital qui a offert un abonnement qui a offert 10 abonnements ce matin. Hélène JJJ pour ton 39e mois d'abonnement. Mais je vous avais déjà remercié. Je vous fais du Palworld ce week-end. Je suis pas sûr parce qu'on a des expos et des visites à faire ce week-end. Je suis pas sûr que... Mais on va voir la résistance de Marion à Palworld. On va voir. Et je suis pas certain que Marion ait envie de streamer. Disons qu'elle joue de manière peu protocolaire. Si on stream, on jouera en couple. Voilà. Marion joue de manière peu protocolaire. Marion est aussi à l'aise que moi avec un paddle. Enfin, avec une manette. Mais elle est encore moins à l'aise avec un clavier souris. Mais voilà, quoi. Oui, de toute façon, si on le fait, on le fera en coop. Je garantis rien parce qu'on a un week-end socialement chargé, on va dire. Et pas comme le week-end socialement chargé que va avoir le gouvernement. Nous, c'est juste qu'on a, on a des rendez-vous sociaux. Je m'embrouille. J'aimerais terminer cette émission, mais je n'arrive pas à arrêter mon flux de parole. Que dois-je faire? Eh bien, un raid. Je lance le raid. Comme ça, je suis obligé d'arrêter. Je lance le raid et je vous dis à demain. Ciao tout le monde. Et jeudi contributeur ce soir.